Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce dimanche dans À voix haute, je vous propose d'entendre les premières pages d'un polar de Franz Bartelt, Hôtel du Grand Cerf, paru au Seuil en 2017 et disponible en poche chez Point. Paris, dimanche après-midi. Aujourd'hui, le nom de Rosa Gullingen ne dit plus rien à personne. Il y a une quarantaine d'années, il fut pourtant celui d'une des stars les plus célèbres du cinéma. Elle composait avec Armand Gretry, lui aussi bien oublié maintenant, un de ces couples que la foule fait mythe ou légende. C'était une Allemande. Elle avait commencé sa carrière en France vers la fin des années 30, avant de tourner 3 ou 4 films aux États-Unis. Auréolée de gloire hollywoodienne, elle était revenue s'installer à Paris quelques mois après la Libération. On ne se souvient plus qu'elle trouva la mort dans une bourgade de l'Ardenne, sur la frontière franco-belge, où elle préparait le tournage d'un nouveau film, Le village oublié. On l'avait découverte, noyée dans sa baignoire. Armand Gretry, son partenaire à l'écran et son compagnon dans la vie, avait un moment été inquiété par la police, puis très vite mis hors de cause. « On n'a jamais retrouvé le coupable », dit Charles Raviottini en introduisant une cassette dans le magnétoscope. « Il n'y avait peut-être pas de coupable », murmura Nicolas Teck, puisque la police a conclu à une mort accidentelle. « Peut-être. Je t'ai réuni quelques journaux de l'époque. » L'enquête a conclu un accident, c'est vrai. Rosa buvait comme un trou. Elle se serait endormie dans son bain. La police n'a pas jugé utile de chercher plus loin. Toutefois, certains journalistes ont écrit qu'il subsistait un doute. Je m'en tiens au doute, c'est ce qui fait rêver. Sur l'écran apparaissaient de brèves images muettes de Rosa et d'Armand. Ce sont des bouts de scène, des essais, des choses sans grand intérêt artistique, expliquait Charles Raviottini. Mais tout a été filmé pendant la semaine précédant la mort de Rosa. « Où tu as trouvé ça ?» demanda Nicolas Teck d'une voix maussade. « Dans une poubelle, je crois. Tu crois ?» C'était il y a 3 ou 4 ans au moins. Il y avait des travaux dans l'immeuble que j'habitais à ce moment-là, rue Lafontaine. Les caves avaient été vidées. Sur le trottoir, parmi les détritus et les gravats, j'ai aperçu une caisse contenant des bobines de film. Je l'ai chargée dans le coffre de la voiture, un réflexe, parce que ça me faisait de la peine de voir partir des films à la benne. J'ai mis ça dans un coin de mon bureau et je n'y ai plus pensé. L'autre jour, je suis retombée dessus. Comme je n'avais rien de mieux à faire, j'ai visionné quelques-unes de ces bobines. Il y en avait pour tous les goûts. Des publicités, un documentaire sur Lisbonne, des bandes-annonces et ça. Je l'ai fait reporter sur la cassette, pour toi. Regarde bien. Nicolas Teck bâillait. Il avait eu un samedi soir plein d'indignité, qu'il avait conduit d'un bar à une boîte de nuit, puis à un autre bar, liquidant dans divers breuvages des fatigues existentielles et quelques soucis d'argent. D'un œil gonflé et larmoyant, il voyait sur l'écran une succession d'images sans suite logique. Une entrée de bâtiment surmontée d'une enseigne en demi-cercle où on pouvait lire « Notre-Dame des orphelins ». Un hôtel sur la façade duquel avait été peinte en lettres gothiques cette raison sociale, « Hôtel du Grand Cerf ». Une place assez vaste où il y avait des arbres et sur le pavé de laquelle circulaient des groupes empotés de figurants qui cherchaient leur marque. Quelques photos de famille, des rangs d'oignons, vagues silhouettes de paysans endimanchés, enfants graves, immobiles, sur le bord d'une fontaine, sur la toile de fond d'une église sans charme. L'intérieur de l'hôtel, un salon plutôt cossu, mais d'un style exagérément rustique, avec de lourdes poutres, une cheminée au manteau noirci, des lampes en fer forgé, des tables en bois épais. Au mur, des chromos, des vieux outils, une glace immense dont le reflet révélait un tableau où l'on apercevait des moulins. 4 essais de scène qui réunissaient Rosa et Armand. Un gros plan de Rosa, puis un plan plus large de l'actrice debout près de la cheminée de l'hôtel. C'était à peu près tout. « Et alors ?» demanda Nicolas Tec. « Et alors, en voyant ça, j'ai eu l'idée qu'on pourrait faire un documentaire intéressant. Plus personne ne la connaît, ta Rosa, mon pauvre Charles, et Armand encore moins. Qui veux-tu intéresser à une histoire pareille ? Ton idée n'est pas fameuse. Ah, je ne dis pas comme toi. D'abord parce que la télévision rediffuse de temps à autre plusieurs des films de Rosa Gullingen et d'Armand Gretry. Jamais vu. Moi si. C'est comment ? Romantique quand on aime, grandiloquent quand on n'aime pas, mais ce n'est pas l'important. Il recula vers la fenêtre, glissa les mains dans les poches de sa veste. J'ai commencé à me renseigner. L'hôtel du Grand Cerf existe toujours. Il appartient toujours à la même famille. Thérèse Londroit, fille de Léontine Londroit. Il paraît que Reny, le village, n'a pour ainsi dire pas changé depuis le début des années 60. On y a longtemps célébré le culte de Rosa et d'Armand. Qu'est-ce que tu attends de moi, Charles, exactement ? Rends-toi sur place, à Reny. Retrouve les témoins de cette époque, les lieux. Va chez les gens du pays. Je suis sûre qu'ils conservent avec fierté des photos qu'ils ont prises de Rosa et d'Armand. Consulte aussi les archives des journaux, aussi bien en France qu'en Belgique. Je ne vois pas pourquoi. C'est toute une époque du cinéma, tu sais. Et puis, il y a cette fin curieuse, dont on possède les images des heures qui l'ont immédiatement précédée. Rosa s'est noyée à 6h du soir, le 6 juin 1960. En examinant avec soin les bouts de film que j'ai retrouvés et en les comparant avec plusieurs articles de presse, tout m'a laissé supposer que la scène où l'on voit Rosa près de la cheminée de l'hôtel a été tournée moins d'une heure avant sa mort. Et puis rien. Je voudrais savoir ce qui s'est passé pendant 7 heures. Plus de 40 ans après, les choses ne vont pas être simples. C'est un bon petit boulot pour toi. Je te donne une semaine. Nicolas n'avait pas le choix. Il lui restait juste de quoi payer pour un mois la chambre qu'il occupait depuis 2 ans. Il avait revendu sa voiture et, dans l'urgence, n'en avait pas tiré la moitié de sa valeur. Charles Raviottini le dépannait de temps à autre, avec des petits emplois de régisseur, d'accessoiriste, de photographe, n'importe quoi qui lui permettait de survivre mois après mois. Sans excitation, le producteur fit le plan du film qu'il espérait consacrer à la mort de Rosa Gullingen. Il était de ces hommes qui savent et ne se trompent jamais. Il fourmillait d'idées bizarres, de projets irréalisables et tortueux, qu'il menait néanmoins à terme sans désemparer, avec une conviction paisible qui inspirait confiance à tout le monde. « Je pars quand ?» interrogea Nicolas Tec. « Demain matin. Je t'ai pris un billet de train jusqu'à Larcheville. À Larcheville, tu loueras une voiture, il y a une agence à 2 pas de la gare. La frontière n'est qu'à 2 minutes de route. Tu logeras évidemment à l'hôtel du Grand Cerf. Je t'ai préparé une carte routière de la région. De l'argent, un petit appareil photo, un magnétophone de poche. Faxe-moi ou téléphone-moi des nouvelles 1 fois par jour. Je compte sur toi, mon vieux. » Il souriait en lorgnant vers l'écran de télévision où Nicolas venait de faire un arrêt sur l'image de Rosa appuyée contre le jambage de la cheminée. « Est-ce qu'elle a l'air d'une femme saoule ?» murmura Charles. « Elle est en pleine forme, c'est vrai, mais ça ne veut rien dire. Là, il ne lui reste pas 1 heure à vivre. » En 1 heure, elle avait le temps de vider une bouteille d'alcool. On peut tout imaginer, Nicolas. Quel âge avait-elle ? 41 ans. Elle en paraît 10 de moins. Preuve que c'était une bonne actrice. Reny, dimanche après-midi, hôtel du Grand Cerf. Thérèse Londroit n'était pas d'humeur facile. Tout l'agaçait. Les clients se faisaient rares, même en pleine saison. Ce midi, elle n'avait servi qu'une demi-douzaine de couverts, principalement à des Flamands et à un couple de Bruxellois. Quelques touristes français séchaient une bière consistante dans la tiédeur du salon. Deux jeunes gens s'étaient installés dans l'ancienne grange qu'elle avait transformée en une espèce de petit musée à la gloire de Rosa Gullingen et d'Armand Gretry. Pendant des années, elle avait accumulé quantité d'objets ayant un rapport avec les deux comédiens, affiches de films, photographies, matériel publicitaire, la paire de chaussures que Rosa portait dans les bandes rouges, le collier de coquillages qu'Armand lui offrait dans l'archipel de l'amour, une boîte des mêmes cigares que fumait Gretry dans la vie, une collection de portraits du couple peints par des artistes amateurs. Rosa et Armand avaient inspiré une génération entière d'artistes locaux, des Français comme des Belges. Au milieu de cet entassement de souvenirs d'une valeur minuscule, elle avait fait construire 3 tonnelles, couvertes de lierre et de fleurs en matière plastique. Les couples d'amoureux y trouvaient comme un abri à leur déclaration de saison. S'ils le voulaient, ils pouvaient aussi visionner 2 ou 3 films de Rosa. De l'autre côté de la fenêtre qui donnait sur la place de Reuilly, elle vit s'arrêter le taxi de Sylvie Monsoir devant le centre de motivation qu'avait ouvert Richard Lépine dans ce qui, avant la guerre, avait longtemps été une maison d'accueil pour les orphelins. De la voiture, il descendit 3 hommes. C'était la 4e fournée depuis le matin. D'autres étaient venus par leurs propres moyens ou dans des taxis français. Elle haussa les épaules. Les affaires de Richard Lépine ne la préoccupaient pas, mais elle l'épiait avec une curiosité grandissante. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Elle se demandait seulement ce que pouvait bien venir chercher ici ces hommes en costume, raides comme des piquets, incapables d'un sourire ou d'un bonjour, et qui ne mettaient jamais les pieds à l'hôtel du Grand Cerf. Toutefois, le centre de motivation était réputé dans l'Europe entière. Elle avait parcouru des articles dans les journaux. Les entreprises avaient l'habitude d'organiser des stages et des séminaires à Reuilly. Richard Lépine avait développé une méthode singulière basée sur l'observation des représentations animales. Elle n'en savait pas plus. Les gens du pays ne parlaient pas beaucoup de ces choses-là, qui relevaient des secrets et des mystères dont il valait mieux se tenir éloigné. Trop d'argent, trop de personnages puissants.
Je viens de fermer ma fenêtre. Le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre, il pénètre. Notre chambre où meurt le passé. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seul ce soir avec ma peine, j'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. Dans la cheminée le vent pleure. Les roses, ses feuilles sans bruit. L'horloge en marquant les quarts d'heure d'un son grêle berce l'ennui. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. tombe. Ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seul ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seul sans ton amour.
À voix haute, Meredith Ledez.
La Sylvie Monsoir faisait des manières avec les hommes. Thérèse Londroit pesta entre ses lèvres serrées. Elle n'aimait pas cette femme qui n'était pas du pays. Son mari, Freddy Monsoir, travaillait dans les transports internationaux, un fou furieux, comme bien des hommes de ce plateau, et qui avait vécu en patachon pendant 5 ans, le temps de revenir à Reuny le corps couvert de tatouages, les cheveux à ras, des chaînes au cou et aux poignets, avec une allure inhabituelle dans ses campagnes. Il partirait tout à l'heure prendre un chargement dans les pays de l'Est, on ne savait où et on ne savait quoi. Vendredi soir, il s'était saoulé à l'hôtel du Grand Cerf. Il avait l'habitude de se saouler avant chaque grand voyage. De se saouler et de casser quelque chose pour se rappeler au bon souvenir de ses concitoyens. Il était fort comme un bœuf et brutal. Il avait plus d'une fois arraché le robinet de la fontaine, d'un seul élan, à pleine poigne, en riant. Mieux valait être bien avec lui. Il savait ajuster le coup de poing qui brise la tête en plusieurs morceaux. Il avait été la terreur des bals et des dancings. Ce n'est pas qu'il était méchant, non, mais sa jalousie le gouvernait. Depuis qu'il avait ramené cette Sylvie, c'était pire. D'autant qu'il devait l'abandonner à la convoitise des hommes durant des semaines et que cela le rongeait. La jalousie n'a jamais empêché les cornes. Elle les fait seulement sentir mauvais, murmurait Thérèse Londroit, sans savoir qu'elle citait Xavier Forneret. Elle reprit le chiffon qu'elle avait posé sur le rebord de la fenêtre et entreprit de dépoussiérer le dessus des tableaux accrochés au mur, espérant que ce geste domestique ferait venir des clients. Reuny, dimanche après-midi, centre de motivation. Le silence était de règle. Une fois franchi le seuil, les participants au stage ne s'appartenaient plus et n'appartenaient plus au monde ordinaire. Richard Lépine ne se montrait pas. Il méditait dans son bureau jusqu'au soir. Élisabeth Grandjean était chargée d'accueillir les stagiaires. C'était une longue et belle femme au visage fermé, vêtue d'un tailleur noir et d'un corsage blanc. Dans le hall, elle prenait en charge chaque stagiaire et le conduisait à sa cellule sans un mot. Elle notait quelque chose sur un formulaire, une appréciation, un chiffre, peut-être seulement une croix dans une case. Le stage commençait en fait au premier regard qu'elle posait sur les participants. La première impression était prise en compte en dehors de tout critère objectif. Un panonceau intimait le silence. Sur une table, alignée par ordre alphabétique, des badges au nom des stagiaires. Chacun choisissait le sien, l'épinglait au revers de son veston. Il lui était recommandé de ne le quitter sous aucun prétexte, quelle que soit la tenue qu'il serait amené à porter pendant le temps qu'il passerait au centre, y compris la nuit. On devait pouvoir l'identifier à tout moment, sous la douche comme aux toilettes. Tout cela était consigné dans un livret que le stagiaire était invité à étudier avec le soin le plus méticuleux. Il y apprendrait notamment que la perte du badge entraînait une exclusion immédiate, un retour sur le champ à l'entreprise d'origine et un rapport défavorable. En revanche, Le stagiaire qui trouvait le badge égaré était en droit de le conserver, et cela lui vaudrait des points supplémentaires à l'instant de l'évaluation finale. Il était implicite que ces badges pouvaient être l'objet de détournements, de vols, et qu'il s'agissait de les défendre, comme on aurait défendu sa propre personne, son nom, sa maison, son bien le plus précieux. Il constituait d'une certaine façon quelque chose comme une prise de guerre. Les stagiaires devaient en permanence se tenir sur leur garde et prendre conscience qu'ils évoluaient dans un monde hostile, confrontés à un nombre incalculable de dangers. Là, ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, sur leur qualité d'attention et d'endurance, sur leur astuce, sur leur faculté à dominer les autres, sur leur instinct de survie. Élisabeth Grandjean écrivit que les trois hommes qui se présentaient devant elle étaient flamands, qu'ils avaient voyagé ensemble d'Anvers à Rugny. Ce voyage en groupe leur valut un mauvais point. À ce niveau et dans ces circonstances, un cadre supérieur doit cesser d'obéir aux codes qui régissent la vie en société. Il n'a plus d'amis, plus de collègues, plus de confrères, plus d'égo. Il est tout calcul, tout stratégie, tout ambition. Elle nota l'heure de leur arrivée et pointa leur nom sur une liste. Tous les trois travaillaient auprès de la direction de Beijing Antwerpen. Un de leurs collègues était déjà dans sa cellule depuis le matin. Bon point pour lui. Les Français de Beijing Toulouse avaient aussi voyagé en groupe. Ils avaient frété un minibus Mercedes avec chauffeur en casquette. Le chauffeur constituait une complication, car il n'était pas dans les usages du centre de loger des personnes étrangères au stage qui s'y déroulait. Finalement, on avait trouvé au chauffeur un lit dans le dortoir réservé au personnel. Mais pour plaider leur cas, les Français avaient dû rompre d'entrée la règle du silence. Mauvais point. Ils s'étaient expliqués dans un anglais qui essayait d'imiter l'accent new-yorkais. Mauvais point. Élisabeth Grandjean les avait écoutés sans prononcer une parole. Au bout de 5 minutes, ils étaient déstabilisés et mêlaient des bribes de français à leur anglais prétentieux. L'un d'eux se laissa déborder par l'émotion et se fâcha presque en parlant d'un foutoir hallucinant. Mauvais point encore. Quant aux Français de Beijing Normandie et aux Allemands de Beijing Stuttgart, ils n'étaient même pas encore annoncés. Il était 3 heures de l'après-midi. Il y avait du soleil. Mais au-delà du hall, le long des couloirs où s'alignaient les cellules, le centre était dépourvu de fenêtres. Rugny, dimanche après-midi. Depuis plusieurs mois, Anne-Sophie Londroit se disputait de plus en plus violemment avec sa mère Thérèse Londroit. Au sujet de la grand-mère, Léontine Londroit, vieille et à moitié paralysée, à cause de qui on ne pouvait pas vendre l'hôtel du Grand Cerf. À 20 ans passés, Anne-Sophie aurait aimé quitter ce trou perdu au milieu des Ardennes, où l'hiver n'en finissait pas, où l'été se dévidait par petites secousses de lumière entre d'interminables étalées de nuages et d'ombres. Elle voyait le moment où sa mère, Thérèse, lui imposerait de prendre la succession à la tête de l'établissement. Déjà, elle lui avait infligé 2 années dans une école hôtelière en France. Il n'avait accepté de l'en retirer qu'après que la jeune fille eut tenté de mettre fin à ses jours en se jetant sous les roues d'une voiture. Anne-Sophie s'en était sortie avec une jambe brisée qui lui avait laissé une légère claudication et 3 jours de coma dont elle se plaisait à répéter, quand elle sentait monter en elle la colère contre sa mère et sa grand-mère, qu'ils avaient été les 3 plus beaux jours de sa vie. D'autres fois, elle disait à sa mère que c'était sa faute, à elle, mauvaise mère, si maintenant elle boitait. Et elle tirait la patte un peu plus bas pour bien afficher sa disgrâce. Au fond, elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait. Elle rêvait de quitter Rugny. Cette campagne la rendait malade. Elle aurait aimé habiter Bruxelles, au moins Liège. Rencontrer des gens, sortir le soir, mener une existence normale, sans savoir vraiment ce qu'elle entendait par une existence normale. Elle voulait vivre comme les gens qu'on voyait à la télévision, peut-être. Elle n'avait pas une idée précise de ces choses. Elle s'énervait, elle était trop sensible. Elle entrait dans des colères qui la défiguraient, tenait en hurlant des propos terribles à l'encontre de sa mère et de la grand-mère Léontine, puis regrettait ses excès et s'enfermait dans sa chambre pendant des jours. Ce dimanche encore, sa mère l'avait obligée à servir en salle. Elle lui avait demandé cela comme une faveur, presque gentiment, en la suppliant, mais c'était un ordre déguisé en prière. La clientèle n'était pas assez nombreuse pour qu'on fasse les frais d'embaucher un extra. Il fallait se débrouiller. Thérèse au fourneau, Anne-Sophie au service, et Léontine dans son fauteuil roulant sur la mezzanine qui inspectait de loin son petit monde. Sa mère lui avait reproché de ne pas mettre assez de cœur à l'ouvrage, d'être désagréable avec la clientèle. « C'est pas mon métier de faire le larbin », avait rétorqué Anne-Sophie. « C'est quoi ton métier ?» avait demandé Thérèse en rogne. « D'avoir 20 ans. » Les disputes commençaient toujours à peu près de la même façon et pour les mêmes raisons. Se poursuivaient selon des cheminements convenus. Thérèse était fatiguée et lasse. Elle perdait facilement patience. Elle était seule pour s'occuper de tout, de l'hôtel, du ménage, du jardin, des commissions, de la cuisine, de Léontine et aussi d'Anne-Sophie, qui lui donnait du tracas, plus qu'une mère ne peut en supporter. Elle lui épargnait les gros travaux, les tâches salissantes, n'exigeait d'elle qu'un coup de main de temps en temps le dimanche, quand il y avait un peu de monde. Elle ne pouvait pas faire plus. « Si tu peux faire plus, » se révoltait Anne-Sophie. « Quoi, par exemple ?»« Vendre l'hôtel. » »« Tu sais que ce n'est pas possible tant que grand-mère est en vie. C'est son œuvre. » C'est elle qui l'a voulu. Toute sa vie est entre ses murs. Ce n'est pas une raison pour qu'elle nous condamne à y passer la nôtre. Qu'est-ce qu'on ferait d'elle si on vendait? Il y a des maisons pour les vieux. Elle en mourrait. Ça ne serait pas plus mal, elle a fait son temps. Elle aurait préféré retenir ses dernières méchancetés. Elle n'en pensait pas un mot, mais c'était plus fort qu'elle. Face à sa mère, elle avait besoin de se défendre ainsi, avec une cruauté radicale. Évidemment, Thérèse avait pris son air chagrin et s'était tournée vers les cuves où fumait l'eau de la vaisselle. Anne-Sophie avait jeté le torchon sur le sol et était sortie en maugréant. Elle avait enfourché son vélo moteur. C'était « Hôtel du Grand Cerf », un polar de Franz Bartelt, paru au Seuil en 2017 et disponible en poche chez Point. Cette émission était comme toujours réalisée par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical « Seul ce soir », une chanson interprétée par Léo Marjan en 1941. Quant à moi, je vous souhaite un heureux dimanche soir et je vous dis au prochain week-end pour de nouvelles lectures à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.